On a vu sous la vidéo du dernier portrait consacré à Charles Pasqua que le commentaire le plus liké nous conseillait de faire une vidéo sur l'abbé Pierre. Du coup, bah voilà, on va faire ça, on va abandonner le projet d'Usul de faire une trilogie sur Jospin.
Ouais, vous aurez pas tout Jospin, tout Pain, et Jospin 3, le retour de Jospin, tant pis.
Ah tant pis, hein, du coup on va faire l'abbé Pierre, on va parler de son parcours politique.
Mais aussi de spiritualité. Bah oui, parce que c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'enfin on va pouvoir parler du message du Christ, des évangiles. Et ça, ça fait plaisir, ça va vous remettre dans le droit chemin.
Pas sûr, hein. Mesdames, messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un homme, mais surtout d'une icône, d'un mythe qui a traversé tout le XXe siècle, l'abbé Pierre.
Oui, vous connaissez peut-être le discours, là, le discours qui est dans Nekfeu.
Genre, tu le connais par cœur.
Tout le monde le connaît par cœur, hein.
Bah, vas-y.
Ceux qui ont mangé tout le sang sur les mains, et c'est qu'il faut que je leur dise à ceux-là que le pain dans leur assiette, avec sa bonne figure, il est pour la paix.
C'est quasiment ça, oui.
Mmh.
L'abbé Pierre, c'est un catholique déjà, donc un homme de foi. Mais c'est un homme qui a eu plusieurs vies. Comme beaucoup de personnes dont on vous a parlé dans cette émission, il a été résistant pendant la guerre, il a par la suite été élu député à la Libération, avant de vouer sa vie à la lutte contre la misère et l'exclusion.
L'abbé Pierre, qui est mort en 2007, c'était la voix des sans-voix. Il avait l'oreille des puissants, mais ne se privait pas de leur dire leurs quatre vérités, et ce sont sans doute ces accents de vérité qui nous parlent encore aujourd'hui.
Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous.
Donc là, on est en 1984, et il faut se rendre compte que ce discours de l'abbé Pierre, il est assez violent. Hein. Là, il parle aux bourgeois, aux puissants, mais même à la classe moyenne qui est dans le confort.
Et attendez, c'est pas fini, parce que vous allez voir que dans la suite non plus, il les ménage pas.
Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir.
Vous voyez bien que ça mélange un peu de tout. Il y a un peu de politique, un peu de spiritualité. Bon, la politique, c'est un peu notre truc, mais en spiritualité, on s'y connaît un peu moins.
Donc on est allé interroger le journaliste indépendant Timothée de Roglaudre, spécialisé dans ces questions et qui a publié l'année dernière « Les Moissonneurs », un ouvrage sur la théologie de la libération en Amérique latine. On a commencé par lui demander ce qu'il pensait de ce discours de l'abbé Pierre.
Donc ça, c'était assez, je pense que c'était assez courageux pour l'époque, puisqu'il y avait... Il y avait des mouvements de guérilla en Amérique latine à l'époque. Il y avait aussi du terrorisme d'extrême gauche en Europe. Et on sait que l'abbé Pierre a défendu les brigades rouges contre l'extradition à la fin de sa vie.
Vous imaginez si Mélenchon disait un truc comme ça aujourd'hui ?
Les amis, les bourgeois, ils ont du sang sur les mains. Alors du coup, vous avez le droit de prendre des armes, c'est bon. Antoine, tu me donnes des armes.
Oui, d'accord, Jean-Luc.
Non, clairement, ça passerait pas. Mais bon, là, c'est l'abbé Pierre.
Ah bah, l'abbé Pierre, hein, voilà quoi. Hein. 16 fois de suite, personnalité préférée des Français. Le mec est intouchable, en fait, c'est un mythe.
Quand on prononce le mot abbé Pierre, on voit tout un personnage, entre guillemets, et quelque chose d'un peu mythique.
L'abbé Pierre, c'est en effet un personnage construit au fil des années par Henri Grouès. Henri Grouès, c'est le vrai nom de l'abbé.
Et c'est un personnage qu'il s'est inventé assez tôt. Roland Barthes, le père de la sémiologie, faisait déjà une description assez fine de l'iconographie de l'abbé Pierre en 1957.
Effectivement, on voit, d'une façon d'ailleurs mystérieuse, un peu inexplicable, fonctionner tout un ensemble de signes du franciscanisme, n'est-ce pas, la coupe de cheveux, la barbe, la canne, la canadienne, ce qui se donne pour une vocation spirituelle intense, a tout de même spontanément retrouvé l'image extérieure d'une légende.
Une légende qui vit encore aujourd'hui. L'image et le chara-design de l'abbé Pierre ont marqué les esprits durablement.
Tenez, dans sa ville natale de Lyon, l'abbé Pierre est représenté avec toute sa panoplie sur la fresque des Lyonnais, dans le premier arrondissement.
Et puis vous avez peut-être déjà vu l'ancien logo de la Fondation Abbé Pierre, sur lequel il y a sa silhouette, reconnaissable entre toutes. L'abbé Pierre est donc bel et bien une icône, au sens premier du terme presque.
Alors si les attributs de l'abbé Pierre sont facilement identifiables, il est peut-être plus difficile de saisir leur signification à notre époque.
Aujourd'hui, on va vous aider à comprendre mieux l'abbé Pierre, politiquement et spirituellement. On va commencer par décrire un petit peu sa panoplie et à quoi renvoie chaque accessoire de l'abbé Pierre. Bon, déjà, Roland Barthes en parlait. Déjà, il y a la coupe, la barbe, la robe de bure et la ceinture en corde là, qui renvoient directement au franciscanisme.
Bon, le franciscanisme, les franciscains, c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Alors, dis-nous, c'est quoi les franciscains, Usul ?
Eh bien, en effet, il y a deux sortes de religieux, les franciscains et les autres.
Les franciscains, c'est un ordre religieux chrétien qui a 800 ans et dont les membres, qu'ils soient prêtres ou bonnes sœurs, tâchent de mener ensemble leur vie sur le modèle de celle de Saint François d'Assise.
La tradition franciscaine qui est venue après lui a beaucoup insisté sur la pauvreté comme choix. L'idée, c'est pas de se dire que la pauvreté, c'est super et de faire comme si on était né dans un milieu pauvre, etc. Mais c'est vraiment de se défaire de toutes les possessions et de toutes les attaches matérielles pour vivre plus proche du message du Christ.
Chez les franciscains, on ne vit pas reclus, on vit avec les hommes, dans la cité, à hauteur d'homme même. Et on porte une attention particulière au dialogue interreligieux et à la question de la nature. Sachez que c'est en référence à Saint François d'Assise que le pape actuel a choisi de se nommer le pape François.
Et donc l'abbé Pierre, qui est le cinquième enfant parmi huit d'une famille de la haute bourgeoisie lyonnaise, va choisir de rejoindre l'ordre des Capucins.
Hein, pas les petits singes, hein, c'est un sous-ordre des franciscains, les Capucins.
Ouais, genre de spin-off. Donc l'abbé Pierre quitte sa famille, il fait vœu de pauvreté et il donne tout son patrimoine à des œuvres caritatives. À cette époque, il va rencontrer des gens issus d'autres milieux sociaux que le sien, c'est ce qu'il raconte dans ses mémoires.
« Mon compagnon était de famille ouvrière. » Il connaissait la dureté des conditions de vie. Il avait participé à des luttes syndicales difficiles. Saint François aussi était un gosse de riche. Alors c'est pas étonnant si souvent, dans les ordres de Saint François, la pauvreté professée, voulue, vécue, c'est la pauvreté à la manière de celui qui n'est pas né pauvre. Pour celui qui est né pauvre, il y a un certain romantisme de la pauvreté qui pouvait être exaspérant. Pour mon compagnon de noviciat, j'incarnais en quelque sorte ce romantisme exaspérant de naïveté.
En tant que gosse de riche, le choix de l'abbé Pierre n'était pas si surprenant. À cette époque et dans ces milieux-là, il n'était pas rare qu'un des enfants rentre dans les ordres, pourvu qu'il ne soit pas l'aîné.
Pendant 7 ans, l'abbé Pierre va vivre une vie très dure, très austère, tout en gardant une idée en tête.
Je ne suis venu ici ni par un désir de vie méditative, ni par vouloir d'apostolat. Pas plus pour être prédicateur que professeur ou confesseur, ni dans l'espoir de diriger, ni pour la joie d'obéir. Je ne suis même pas venu pour être plus prêtre que laïc. Une seule volonté m'a conduit, mais ferme et criante, qui ne réclame aucune obédience particulière et qui s'accorde si parfaitement de n'importe laquelle, la volonté d'être un saint.
Bon, ça, c'est pour le côté franciscain. Cette robe, cette barbe et cette coupe de cheveux rendent l'abbé Pierre immédiatement identifiable comme un religieux, mais un religieux appartenant à un ordre tourné vers les autres et qui ne fait pas dans le bling-bling.
Rien qu'à regarder sa dégaine, on voit bien que c'est pas un évêque, on voit bien qu'il ne transpire pas la thune. D'ailleurs, pour qualifier les franciscains, on parle même d'un ordre mendiant. Son vœu de pauvreté, il est aussi vestimentaire. Il n'y a pas de pourpre, il n'y a pas de dorure.
Oui, gros manque de style, hein, il faut le dire. L'abbé Pierre, c'est aussi plus d'un demi-siècle de fashion faux pas.
La ceinture, elle n'est pas très moderne. J'aurais fait un rafraîchissement au niveau coiffure.
Bon, maintenant, le béret qui, pour le coup, n'est pas un symbole religieux, mais plutôt un symbole de la résistance.
Et oui, il a été résistant, hein, comme Pasqua et Françoise d'Aubonne. Quelle grande famille.
Mais contrairement à Pasqua, Henri Grouès était majeur quand la guerre a éclaté. Pour des raisons de santé, il n'a pas combattu et il a été démobilisé en octobre 1940. C'est plus tard, alors qu'il est nommé à plusieurs postes d'aumônier et de vicaire en Isère, qu'il s'engagera dans la résistance pour aider des juifs et des réfractaires au STO à passer en Suisse avec l'aide d'un réseau de religieuses.
Et puis, ainsi, progressivement, parce qu'on a su que j'avais sauvé des gens et que tout se dit dans les moments de détresse, ont afflué vers mon confessionnal de vicaire de la cathédrale. Tous les jeunes gens qui étaient réfractaires, qui ne voulaient pas partir, travaillaient dans les usines de l'ennemi en guerre et qui venaient chercher à se cacher dans la montagne, ce qui allait devenir dans cette région les débuts de l'armée du Vercors.
J'ai été à l'origine du tout premier dans la Grande Chartreuse. Après quoi, on a passé, la Chartreuse n'était pas défendable. On a traversé la vallée pour remonter dans le Vercors.
Ça a encore contribué à forger le personnage et le tempérament de l'abbé Pierre.
Personnage, c'est des grands mots. On fait le petit peu qu'on peut. Vous savez, un peu d'admiration, on trouve pas ça désagréable. Beaucoup, on en a vite perdu la tête.
C'est pendant cette période qu'Henri Grouès prendra le nom de l'abbé Pierre.
Il a aussi aidé un des frères du général de Gaulle à passer en Suisse, un geste qui lui sera utile plus tard pour se rapprocher du général.
Ce béret, donc, qui a été porté par les résistants en France, mais qu'il sera plus tard par d'autres figures révolutionnaires, comme Che Guevara ou Sankara, c'est le symbole de cet engagement crucial pour celui qui, comme Chaban, va garder après la guerre son nom de résistant.
Donc maintenant, vous devriez mieux comprendre le sens de son accoutrement. On y trouve le franciscanisme et la résistance.
Puis il y a sa cape aussi, qui lui a été offerte par un pompier. Elle va plutôt symboliser l'engagement au service des autres. Et il y a sa fameuse canne. Alors sa canne, c'est marrant parce qu'à ce moment-là, il a 30 ans, hein, donc il n'a pas besoin d'une canne pour marcher. Sa canne, c'est comme les bergers en fait, c'est pour se battre, c'est pour taper sur des trucs, parce qu'on ne sait jamais.
L'abbé Pierre renvoie donc une image bien identifiable pour les Français de l'époque, celle d'un homme pieux et humble, celle d'un ascète engagé contre les injustices et plongé dans l'action.
À la Libération, les anciens résistants qui dominent maintenant la vie politique française ont besoin de troupes. Donc ils vont chercher l'abbé, l'abbé accepte, il est élu en Meurthe-et-Moselle, et là aussi vous allez voir, il choisit ses symboles et met en scène son personnage.
Oui, c'est ce qu'explique Sophie Doudet dans cette biographie de l'abbé Pierre qui est sortie l'année dernière. Sur les tracts qu'il distribue, il arbore ses médailles de guerre à côté d'une imposante croix et se présente sous son nom de résistant, abbé Pierre. Il exalte dans ses discours la Lorraine héroïque et martyrisée.
Il faut bien noter, c'est important que l'abbé Pierre est rentré en politique parce qu'on est venu le chercher. À la base, c'est pas forcément son truc.
Et ses amis ont été trouver le cardinal de Paris, insistant en disant il n'y a pas de tête de liste de chrétiens à Nancy et à Rennes, il faut obtenir que l'abbé Pierre accepte. Et c'est ainsi que le cardinal m'a appelé, nous avons parlé longtemps, je lui ai dit mon absolue incompétence, il m'a dit mais il faut témoigner, il faut que vous acceptiez. C'est ainsi que je suis devenu candidat, puis pendant 3 assemblées, député de la Lorraine, de la Meurthe-et-Moselle.
Il devient député apparenté MRP. Donc c'est un parti d'inspiration démocrate chrétienne, donc plutôt centriste, avec plusieurs tendances, et lui va être plutôt dans la tendance gauche du MRP.
Il dira lui-même plus tard qu'il n'aura pas été un très bon député, mais c'est dans ces années-là, de l'immédiate après-guerre, qu'il va poser les bases de ce qui va devenir Emmaüs. Et pour ça, il va pas hésiter à piocher dans ses indemnités de parlementaire.
Bon, on va pas vous refaire l'histoire d'Emmaüs, de la fondation d'Emmaüs, tout simplement parce que l'abbé Pierre et ses compagnons ils l'ont déjà raconté 1000 fois.
Mais on peut quand même vous parler des tout débuts de l'organisation. En 1949, on amène à l'abbé Pierre Georges, un ancien bagnard, qui venait de rater son suicide. Et l'abbé Pierre lui dit
« Tu es horriblement malheureux, et moi, je ne peux rien te donner. Je n'ai rien que des dettes. » Mais toi, puisque tu veux mourir, tu n'as rien qui t'embarrasse. Ne veux-tu pas me donner ton aide pour sauver ces autres qui attendent ?
Et c'est ainsi que Georges devint le premier compagnon d'Emmaüs. Cette histoire est une sorte de mythe fondateur. Dans ce bouquin, Emmaüs et l'abbé Pierre, Axel Brodier-Dolino parle même de mystique de la rencontre.
L'abbé, qui a toujours été bricoleur, s'est mis à acheter des terrains et à construire plus ou moins légalement des abris, des maisons de fortune pour les sans-abri, car le manque de logement était criant, la guerre ayant détruit beaucoup d'habitations.
La crise du logement est terrible. Dans le chaos des villes sinistrées, il a fallu reconstruire, faire large part au provisoire, avec les matériaux disponibles sur place ou des préfabriqués souvent fournis par l'Allemagne au titre des réparations.
Dans ces pauvres baraques, qui ne sont qu'un toit et rien d'autre, et dont le nombre est hors de proportion avec les besoins, des familles s'entassent, 4-6 personnes dans une pièce.
Le recensement de 1946 évalue à 1 800 000 le nombre de logements surpeuplés. Et dans les grandes villes, seuls 5% des immeubles disposent de toutes les commodités.
À cette époque, être à la rue ne signifie pas forcément être sans emploi ou marginal. Ça peut arriver très vite, y compris à des gens de la petite classe moyenne.
Ces couches dehors ne sont pas des clochards professionnels. Ce sont des hommes, des femmes, des familles entières qui veulent un toit, qui ont droit à un toit dans le pays où ils sont nés. C'est pour cela que lutte l'abbé Pierre. Son programme, c'est lui-même qui va vous le dire pour conclure ce reportage.
Le but, à l'heure actuelle, c'est de réaliser, d'obtenir la mobilisation de la nation pour guérir la France de cette plaie du manque de logis. Il serait absurde, une bouffonnerie, de compter sur les chiffonniers d'Emmaüs pour pouvoir accomplir cette tâche. C'est la tâche de la nation tout entière et c'est à son gouvernement de prendre les décisions nécessaires pour que cela s'accomplisse. Je demande qu'au lieu de verser des larmes devant la photo de l'abbé Pierre, chacun se regarde soi-même et se demande s'il a accompli ce qu'il pouvait, par conséquent ce qu'il devait.
Et ce sont ces circonstances qui vont pousser l'abbé à concentrer son action sur la question du logement qui va l'occuper toute sa vie.
Et un des grands principes de son combat, ce sera d'associer à sa cause toutes celles et ceux qui viennent vers lui, peu importe leur passé.
Des hommes seuls, sans attache, durs de la Légion, anciens volontaires de l'armée allemande et même anciens Waffen-SS, ou malgré nous, incorporés de force par le Troisième Reich, auquel s'ajoute l'habituel lot d'ivrognes de paumés, bracassés, inaptes au travail, éternels déclassés, qui ont tout perdu, tout raté.
Il disait, les catholiques, d'une manière générale, retiennent des paroles du Christ, « Ceci est mon corps », le concept de présence réelle. Puisque le Christ a dit « Ceci est mon corps », c'est vrai, c'est sa présence réelle. Mais il disait, mais il a dit aussi, Matthieu 25, « Ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. » Et là, on dit « Oui, mais il parlait d'une manière générale. » Il dit « Non, c'est pas vrai. » Si on croit à la présence réelle de Jésus dans l'hostie, quand on sort de la messe le dimanche, il faut concevoir que le mendiant qui est à la porte, c'est aussi le visage du Christ, et que ce n'est pas une présence uniquement symbolique. Mmh. Donc il radicalisait tout ce qu'il recevait, tout ce qu'il sentait de vrai dans les évangiles.
Il ne va pas se contenter d'aider son prochain. Il va permettre à ces gens qui viennent le voir d'aider à leur tour plus malheureux qu'eux, en construisant des maisons ou en ramassant des chiffons dont la vente financera les prochaines maisons.
Je me rappelle un jour, nous remontions dans la nuit, après avoir fini de caser une famille. On l'avait sorti d'un trou dans une cave. Et cet homme qui était un brigand me serre le bras sur le chemin. Puis il me dit, père, un type comme moi, je suis un mauvais homme, j'ai eu une mauvaise vie, j'ai fait le malheur de ma famille. Je suis un bon à rien. Mais quand même, aujourd'hui, pour la petite famille là-bas qui est si heureuse, c'est nous les bons à rien qui avons fait pour eux ce que tant de types qui se prennent pour des bons à quelque chose, ils n'ont jamais été foutus de faire.
Et là, vous commencez à voir comment il parle, l'abbé. Il fonctionne avec des paraboles, il raconte des histoires, comme Jésus, en fait, comme Jésus faisait avec ses apôtres ou avec les gens qu'il rencontrait en chemin.
Et nous, on s'en est rendu compte en regardant tout un tas d'interviews de l'abbé Pierre ou même en lisant ses bouquins. En fait, il raconte toujours les mêmes histoires et toujours de la même manière.
Il maîtrise son image, il maîtrise son récit. C'est un excellent communicant et c'est d'ailleurs un extraordinaire coup médiatique qui va le faire connaître aux Français.
Le 1er février 1954, la France fait face à une vague de froid sans précédent. Les Français sont devant leur transistor quand ils découvrent la voix d'un homme, un abbé lançant un vibrant appel. Vous connaissez tous les premières secondes de ce cri du cœur.
Mes amis, au secours! Une femme vient de mourir, gelée, cette nuit à 3 heures, sur le trottoir du boulevard Sébastopol.
Et là, c'est un raz-de-marée. L'appel a un succès immédiat, des dons vont affluer de tout le pays pour venir en aide aux sans-abri. En fait, cet appel de l'hiver 54, c'est un autre des mythes fondateurs de l'action de l'abbé Pierre.
Et cet appel est si connu qu'il a été porté à l'écran en 1989 par Denis Hamard. Et là, on y retrouve un l'abbé Pierre beau gosse, interprété par Lambert Wilson.
Vous croyez au miracle ?
Oui,
évidemment. On ne peut sans doute pas reprocher à un homme d'église de s'occuper des pauvres. C'est dans l'ordre des choses.
C'est ça, oui. L'ordre des choses. Mais attention, monsieur le préfet, les choses changent.
L'ordre reste.
Mais quel ordre ? Cette pauvreté ne s'analyse plus en termes de bienfaisance, mais de politique sociale.
Des phrases.
Non, des actes.
N'allez pas trop loin, mon père.
Jusqu'où peut-on aller trop loin avec l'aide de Dieu ?
Là, il y a des choses intéressantes dans cet extrait qui met face à face l'abbé Pierre et le préfet de Paris. Déjà, vous voyez un petit peu quel est le principe de son action. À chaque fois, il se réfère à Dieu. Et là, tu peux rien lui dire. C'est littéralement son joker.
Évidemment que des bourgeois de l'après-guerre n'ont pas envie de contrarier Dieu, ni même un prêtre qui se revendique du message du Christ, même s'il est relou en vrai.
Mais Pierre, pour moi, c'est un cri. C'est un cri que j'ai si souvent entendu que de temps en temps, j'en éprouve quelques lassitudes. Je rentre et ma femme me dit, Pierre a appelé, il y a tel truc qu'il faut mettre en train. Pierre a appelé, est-ce que tu pourrais pas trouver quelque chose pour tel bonhomme? Pierre a appelé, il y a une grande manifestation. Pierre a appelé, il y a un appel à signer. Pierre a appelé, Pierre a appelé, Pierre a appelé, Pierre a appelé. Eh bien, Pierre appelle toujours.
Mais l'abbé Pierre n'est pas simplement relou. Le fait de bousculer les politiques est même devenu une de ses spécialités.
Et les politiques, il les connaît bien. Je vous rappelle qu'il a été député, il a été à l'Assemblée. Donc il sait où est le pouvoir et il a établi une méthode qui tient un peu du pied dans la porte. D'abord, il fait ses trucs, ensuite, il alerte l'opinion publique et une fois que l'opinion publique est avec lui, il va voir les politiques et les politiques peuvent rien faire, ils sont obligés de le suivre, il y a l'opinion publique.
Qu'ils nous aident, eux aussi.
Ils y viendront.
Quand ?
Mais comme toujours, quand ils pourront plus faire autrement.
Oui. C'est ça, quand la loi sera votée, d'ici là...
Enfin, tout ce que je sais, c'est que le préfet vient de convoquer son cabinet au grand complet.
Quand là, en ce moment ?
Mais oui, mon vieux, réunion de crise.
Ben, on y va.
Mais tu vas pour faire une chose pareille ?
Cette méthode a porté ses fruits dès 1954. C'est à ce moment-là qu'on va voter, par exemple, la trêve hivernale. Vous savez, la trêve hivernale qui empêche les expulsions l'hiver, ça existe encore aujourd'hui.
Et cette technique qui consiste à interpeller la classe politique pour faire changer la loi, il va y avoir recours toute sa vie.
Fatigué, mais toujours combatif. En janvier 2006, l'abbé Pierre est à l'Assemblée pour défendre la loi qui oblige les municipalités à construire des logements sociaux.
Cette trêve met en question l'honneur de la France.
À plus de 90 ans, il savait que sa seule présence à l'Assemblée allait être utile pour faire pression sur les députés. Vous avez bien vu, il y a une forêt de micros autour de lui alors qu'on comprenait rien à ce qu'il disait. Mais bon, ça va marcher et la loi SRU va être votée.
Et les guignols ont bien montré ce côté emmerdeur de l'abbé Pierre.
Ce que je propose, c'est une couverture logement universel.
Mais c'est pas possible une couverture. Il n'en a des couvertures. Un toit qui ont besoin.
Bien sûr.
Et Michel, un ancien livreur, jeté à la rue par la société, qui dort dans une carcasse de 504 à Marcoussis. T'es pas possible, t'as cette misère, dormir dans une Peugeot en l'an 2000.
Et justement, l'abbé, c'est tout le sens.
Et Jean-Louis, un an de me lui dire.
Bon, ta gueule, l'abbé, tu fais chier maintenant.
C'est Jospin.
Jospin, il aurait jamais réagi comme ça, mon frère.
Oh, je sais pas, il pouvait être sec, Jospin.
Mais même chez les politiques, il y a plein de gens qui l'aimaient bien, l'abbé Pierre. On a contacté pour vous une ancienne ministre du Logement qui, elle, est fan de l'abbé Pierre. D'ailleurs, vous allez voir, elle a sans doute acheté sa webcam à Emmaüs.
J'ai beaucoup, beaucoup, c'est con à dire, mais d'affection pour l'abbé Pierre, notamment parce que, en plus, il a jamais revendiqué d'être parfait. Il a écrit un livre assez, très touchant où il a parlé de son rapport à la sexualité, par exemple, son rapport à l'église, son rapport à la pureté. Enfin, c'est pas du tout un cateau donneur de leçons. C'est-à-dire que c'est ça que j'aime beaucoup chez l'abbé Pierre, c'est qu'il était très radical sur ce qu'il voulait faire, mais sur les moyens, bah, s'il fallait aller faire chier Juppé, il allait faire chier Juppé, parler avec machin, parler avec bidule. C'était pas une sorte d'icône un peu sur son hamac, là, qui donne des leçons et qui, personnellement, me fatigue.
Ceux qui étaient fatigués, c'était plutôt les politiques qui se retrouvaient sur un plateau télé en même temps que l'abbé Pierre, parce qu'il arrivait avec ses trucs, avec ses doléances, et il ne lâchait rien. Là, par exemple, on est en 1987, et il réclame à Alain Juppé, alors ministre du budget, plusieurs millions de francs pour rénover un immeuble d'Emmaüs afin de loger des familles. Et c'est chaud d'envoyer chier l'abbé Pierre.
S'il m'avait parlé de cette affaire, ou s'il m'avait fait parler de cette affaire avant que nous nous rencontrions aujourd'hui,
j'étais à l'hôpital quand on m'a demandé de venir.
Elle serait réglée.
Et j'entre à l'hôpital le 20.
Alors je peux vous dire, monsieur l'abbé, simplement, c'est que s'il s'agit de 4 millions de francs pour aménager un immeuble à Paris, je prends ici l'engagement de faire tout ce qui est en mon pouvoir, et comme l'a dit monsieur Lémergie, je crois que mon pouvoir là-dessus est grand, puisque cela dépend effectivement de mon ministère, pour que ces crédits soient mis en place le plus vite possible.
Voilà, il a dépouillé Juppé. Un braquage en direct.
Bon, vu tout ce qu'on vous a raconté, ça doit vous paraître assez logique de considérer l'abbé Pierre comme un homme de gauche. Hein. C'est d'ailleurs ce que dit Cécile Duflot.
Ouais, c'est très chiant, hein, parce que vu qu'Olivier Dussopt, il est de gauche, et Elisabeth Borne aussi, moi j'ai du mal à comprendre qui est de gauche ou c'est quoi la gauche. Mais si on considère qu'il faut piquer le fric aux plus riches, même et surtout s'ils en ont hérité, pour le redistribuer à ceux qui en ont moins, oui, il est de gauche, évidemment. Et je considère que c'est un peu la base du fait d'être de gauche, c'est de considérer que les inégalités sont pas une fatalité. En fait, c'est juste la question des valeurs et une phrase que moi j'adore de lui, qui est peu citée, parce qu'on aime bien prendre les trucs un peu plus propres. Il dit « La politique, de toute façon, c'est savoir à qui on prend le fric et à qui on le donne. »
La politique, ça consiste uniquement à savoir à qui on va prendre du fric et à qui on va le donner. Car monsieur l'État, il n'a rien. N'est-ce pas ? Ce qui sera justice ou non-justice, c'est selon la manière dont on choisira, dans quelle proportion on prend.
Et c'est j'adore. Il a tellement raison, mais tellement raison. Et moi, j'adore. Voilà.
L'abbé Pierre, il a une conception bien à lui de ce qui sépare la gauche et la droite. Vous allez le voir dans cet extrait.
Quand vous votez à gauche, ça signifie que vous consentez à ce que les élus prennent plus d'impôts pour assumer par les pouvoirs publics la responsabilité d'empêcher de crever les plus petits, les plus faibles. Et si tu préfères voter, comme on dit, à droite, ça signifie, à moins que tu sois ou un inconscient ou un salaud, que tu t'engages dans ta conscience à donner spontanément à des organismes privés que tu choisiras le nécessaire pour que ces organismes privés viennent au secours de ceux qui vont crever.
Bon, vous voyez que la différence qu'il fait entre gauche et droite, c'est la question du rôle de l'État. Pourquoi pas, hein, ça se défend. Mais vous allez aussi voir que l'abbé Pierre, c'est pas un grand théoricien. D'ailleurs, il avouera lui-même ne pas savoir se placer sur ce clivage gauche-droite.
J'ai du mal à me situer dans le clivage traditionnel. On me dit de gauche, ça me fait sourire. Droite, gauche, je n'en sais rien. Compte tenu de ce que je suis, mon choix est de montrer la réalité telle qu'elle est et de faire percevoir la réalité.
Timothée de Roglaudre nous a d'ailleurs expliqué que dans la grande famille des cathos de gauche, l'abbé Pierre était loin d'être le plus radical.
Voilà, quand on regarde sa profession de foi en 1946, il dit qu'il s'oppose à la fois au capitalisme et au collectivisme. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'il n'explicite jamais vraiment le système vers lequel il aimerait aller, et que voilà, il est dans une espèce d'entre-deux, et que contrairement à beaucoup de figures du socialisme chrétien ou de la théologie de la libération en Amérique latine, il n'a pas d'analyse politique, chrétienne, du capitalisme, des rapports de classe, etc. C'est pas forcément son sujet.
L'abbé Pierre est même anti-communiste, en fait, hein, il faut le dire. Hein. Pour lui, si les communistes veulent construire le paradis sur Terre, le paradis des hommes, ici et maintenant, c'est parce qu'en fait, ils ont renoncé à l'espérance chrétienne. Et ça, c'est terrible. Quelqu'un qui a une foi aussi fervente que l'abbé Pierre ne peut pas le concevoir.
Et puis, il a rencontré De Gaulle plusieurs fois, et notamment en 1945. Et lors de cette rencontre, les deux hommes ont très vite trouvé un terrain d'entente.
Le général et le prêtre sont d'accord sur ce point. Le danger est imminent et seule une politique sociale, volontariste et généreuse pourra contrebalancer la puissance montante de l'extrême gauche.
D'ailleurs, les communistes le lui rendent bien. Ils ont été parmi les rares à ne pas avoir été convaincus par l'abbé Pierre, en tout cas au début de son action. Le journal L'Humanité a même critiqué le mouvement entraîné par l'appel de l'hiver 54, le considérant comme étant charitable et palliatif. C'est en tout cas ce qui est expliqué dans le bouquin d'Axel Brodier-Dolino.
Mais ces désaccords politiques pèsent de toute façon bien peu de choses à côté de l'admiration que suscite la vie et l'œuvre de l'abbé Pierre.
On vous l'a dit, il a rejoint les Capucins car il voulait devenir un saint. Et il a presque réussi.
Parce qu'au-delà des discours et des interventions médiatiques qui ont tant marqué, l'abbé Pierre, c'est surtout le récit d'une vie. Une vie qu'il a voulu exemplaire. C'est complètement cohérent avec sa culture catholique. Chez les catholiques, on apprend et on admire la vie des saints. Pas leur discours, leur vie.
C'est le parcours des saints, dans le monde et l'époque qu'ils habitent, qui est montré en exemple. Ce que l'abbé Pierre a voulu appliquer, c'est ça. De là où tu es, tâche d'avoir une vie qui s'approche le plus possible de celle du Christ, une vie d'amour, une vie tournée vers les autres.
Moi, je pense qu'en vrai, si on lit l'évangile au pied de la lettre, on est forcément de gauche en vrai. Et c'est en tout cas, moi, je pense que ma structuration, ma vertébration morale, si on peut encore utiliser ça, vient du fait que qu'on dise ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. Que voilà, et qu'on dise que qu'on partage, que c'est normal de partager.
Aujourd'hui, on les voit plus beaucoup, mais oui, des cathos de gauche, il y en a toujours eu. Alors peut-être que ça en surprend certains dans notre public.
Bah Cécile Duflo déjà, elle l'assume, hein. Là vous voyez, c'est assez clair. Mais c'est vrai qu'à gauche, entre la gauche laïcarde, le matérialisme historique, bon, les cathos de gauche, c'est sûr, c'est pas la famille dominante.
Mais ça veut pas dire que vous en connaissez pas. Hein.
Vous avez peut-être déjà entendu parler de Gaël Giraud, l'économiste.
Par ailleurs, je suis également prêtre jésuite et je soutiens Blast.
Voilà, il soutient Blast, donc il doit être un peu de gauche. Vous le savez peut-être, le camarade communiste Bernard Friot est également un catholique croyant. Et puis peut-être que vous avez écouté sur YouTube les longs récits d'Henri Guillemin, autre catho de gauche.
Mais si vous entendez moins les cathos de gauche, c'est aussi parce qu'ils sont tout simplement moins nombreux dans les médias qu'ils ont pu l'être par le passé.
C'est particulièrement vrai pour les hommes d'église. Dans les années 90, il y avait quelques figures en vue, comme l'évêque d'Évreux, Monseigneur Gaillot, surnommé l'évêque rouge, ou le père Guy Gilbert, le prêtre au blouson de cuir, le curé des Loubards et des jeunes en réinsertion.
Il s'exprimait sur des sujets de société, parfois contre leur hiérarchie. Gaillot a pris position contre l'homophobie, pour le mariage des prêtres ou contre les essais nucléaires. Écoutez la réaction de ces deux prêtres à la mort de l'abbé Pierre en 2007.
Il n'était pas conformiste, un homme libre, donc il n'avait pas peur de se dire « je vais dire ça, il y a ceci, cela », il avait la liberté, parce qu'il mettait l'être humain au centre. Donc c'était pas d'abord les lois, c'était pas d'abord les règlements, c'est pas d'abord ce qu'on pense, ce qu'on dit.
Les religions, ils s'en foutaient pas, mais il allait au cœur de l'homme et il prenait la part de cristal de l'homme, du plus pauvre au plus riche. Et ça, c'était fabuleux chez lui.
Ces hommes de foi n'étaient pas progressistes sur tout, loin de là, mais leur position détonnait au sein de l'Église. Et comme l'abbé Pierre, ils savaient attirer les caméras.
Et puis Jacques Gaillot, eh ben, il s'est fait mettre au placard en 95. Le très réac Jean-Paul II l'a nommé évêque de Parthénia. C'est un diocèse d'une ville qui n'existe plus depuis le 5e siècle.
Il s'est fait virer parce qu'en 89, on a découvert qu'il avait accepté un prêtre pédophile dans son diocèse en connaissance de cause, non ?
Non, c'est pas pour ça. Non, ça, ça passe.
L'Église catholique est une structure politique. Et comme toutes les structures, elle est traversée par des contradictions, par des conflits. Et elle change avec le temps et pas toujours en bien.
Depuis les années 80-90, il y a eu un mouvement de droitisation du catholicisme français qui a surtout marché dans le clergé, en fait, chez les prêtres catholiques français. Le profil des prêtres les plus jeunes, voilà, de ceux qui continuent à vouloir être prêtres, puisqu'on a aussi un effondrement des vocations de prêtres depuis plusieurs décennies, ça va être plutôt des profils bourgeois avec une vision assez conservatrice. Maintenant, les derniers héritiers de cette prêtrise populaire, issue du milieu rural, qui allait donc avec les ouvriers, les migrants, etc., c'est des prêtres qui sont plutôt âgés. Et il en reste. Il y a un prêtre, le père Philippe à Calais, qui a fait une grève de la faim pour défendre les migrants de Calais contre la destruction des campements, etc.
Philippe de Mester, 72 ans, prêtre religieux jésuite, associatif au service des personnes exilées à Calais.
Il se revendique de l'héritage de la théologie de la libération, et voilà, il est clairement dans cette génération-là. Mais des prêtres comme ça, en fait, il y en a aujourd'hui assez peu chez les jeunes prêtres.
L'abbé Pierre, lui, sa médiatisation l'a plutôt mis à l'abri des foudres de sa hiérarchie. En effet, avoir une place importante dans le débat public, ça aide. D'autant plus que cette place, il ne la devait pas vraiment à l'Église. D'ailleurs, les relations entre l'abbé Pierre et l'Église ont été plutôt tendues, et ce, dès les années 50, avec la fondation d'Emmaüs.
La hiérarchie catholique ne voit pas d'un bon œil l'agitation continuelle et les provocations du curé des miséreux. La modernité de son discours, qui fait obstinément passer la nécessité matérielle et la raison avant le respect de la règle et de la loi, la dimension fondamentalement totalement laïque de son mouvement, sa visibilité médiatique, enfin, dérange.
Parfois, dans nos portraits, on a du mal à évaluer la trace dans l'histoire qu'ont laissé les personnes dont on vous parle. Pour l'abbé Pierre, c'est plutôt l'inverse. Des associations et des personnes qui se réclament de lui, il y en a des tas. Des héritages, il en a même laissé plusieurs.
Déjà, il y en a qui ont beaucoup appris de sa méthode de communication. L'abbé Pierre a laissé une rhétorique reconnaissable, hein. Parler avec des mots simples, donner un visage à la misère, s'adresser directement aux gens.
Est-ce que pour nos frères et nos sœurs, il n'y aura rien ? Les asiles sont pleins, nous a-t-on dit. Un brave homme d'agent à qui on disait « Mais vous ne pouvez pas les conduire quelque part », nous répondait « S'ils ne sont pas morts, nous n'avons pas de consigne. S'ils étaient morts, on appellerait la morgue. Mais pour les vivants, il n'y a pas de place. Alors, il faut que nous fassions quelque chose, tout de suite. Ce n'est pas possible que nous dormions tranquilles pendant qu'ils meurent dehors. »
On retrouve un peu de ça chez Ruffin, par exemple.
Ouais, quand il fait « Regardez, je suis avec Karine, elle est gilet jaune, à Amazon, elle est aide-soignante, elle touche 500 euros par mois, elle a 8 enfants, c'est de ta faute, salaud, Bernard Arnault !»
L'héritage de l'abbé Pierre, c'est aussi des modes d'action. C'est par exemple en 2006, les tentes Quechua des enfants de Don Quichotte installées sur les bords du canal Saint-Martin pour rendre visible la misère et le sans-abrisme.
Un campement de SDF en plein cœur de Paris, sous l'œil étonné des touristes. Au total, une centaine de tentes installées pour les sans-abri, mais également pour les bien logés. Pour eux, c'était l'occasion de partager pendant une nuit ou deux des conditions de vie difficiles.
C'est ce que continue à faire aujourd'hui Utopia 56, une association fondée en 2016 et qui installe des tentes sur les grandes places parisiennes pour interpeller les pouvoirs publics, notamment sur la situation des exilés.
Et puis l'abbé Pierre a laissé des structures qui sont toujours là. Il y a Emmaüs, bien sûr, hein, qui est présent aujourd'hui dans 37 pays, mais il y a aussi la Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés.
Et puis il y a tout un tas d'autres structures qui étaient déjà là du temps de l'abbé Pierre et qui sont toujours là. Bah pourquoi ? Parce qu'il y a toujours du boulot, en fait. Et particulièrement sur la question du logement.
Aujourd'hui, les héritiers de l'abbé Pierre, ce sont eux, les militants du DAL, bien décidés à continuer la lutte.
Je me souviens du Dragon, il nous l'avait dit clairement, vous devez apprendre à faire sans moi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est les gouvernants qui vont apprendre à faire sans l'abbé Pierre. Ils ont une responsabilité et on attend d'eux qu'ils nous fassent une vraie loi pour le droit au logement.
Bon là, en ce moment, c'est pas tellement l'ambiance, hein, on est d'accord, parce que la dernière loi qui a été votée en 2022 sur le logement, bah, c'était la loi anti-squat, qui visait à faciliter les expulsions, à criminaliser les précaires qui se retrouvent dans des situations locatives délicates.
Il y a quand même eu des choses de faites depuis les années 50, heureusement. Il y a eu le 1% patronal, hein, qui oblige les employeurs à financer une partie de la construction de logements. Il y a aussi eu la loi SRU qui impose une part de logement social aux communes.
Mais bon, il y a encore beaucoup de boulot parce qu'aujourd'hui, il y a 3 fois plus de sans-abri qu'au moment de la mort de l'abbé Pierre.
Alors oui, l'abbé Pierre nous manque. Sa vie exemplaire inspirait les militants et tenait en respect les politiques cyniques. On l'a parfois qualifié de prophète, hein. Bourdieu disait ça de lui, un prophète qui disait à la cité sa vérité, une vérité qu'elle ne voulait pas voir, qu'elle refoulait, mais qu'on pouvait voir si on décalait le regard.
L'abbé Pierre avait un regard décalé sur la France du XXe siècle, un regard qui venait de loin et qui devait sans doute une partie de son acuité et de sa radicalité à la culture chrétienne. Une culture qui n'est pas forcément synonyme du repli sur soi.
Et s'il y a bien une chose qu'on peut retenir du discours de l'abbé Pierre, c'est que les puissants, endormis par leur confort de nantis et accrochés à leur titre de propriété, n'en ont absolument rien à foutre des pauvres, catholiques ou pas catholiques. Si on ne leur met pas la misère sous le nez, c'est pas la culpabilité qui va les empêcher de dormir. Et comme disait l'abbé Pierre, tout reste à faire.
Amen.
Et si vous avez encore un petit peu de monnaie, un petit peu de plat dans votre assiette, donnez à Blast.
J'ai rencontré un homme ce matin sur le boulevard. Il avait faim, il avait froid, c'était Denis Robert. Il a même pas de quoi aller chez le coiffeur. Il a besoin de vos sous. On a besoin de vos sous.
Voilà. Également, il y a un super projet qui arrive sur Blast très prochainement avec des marionnettes et de la satire politique. On vous en dit pas plus, c'est très mystérieux oui. Pour le moment. En tout cas, il y a le lien en description si vous voulez découvrir ce projet.
Avec des imitations et des marionnettes. Oui. J'ai jamais vu ça, moi. J'ai hâte.